Alors, partout où vous vous trouvez, où... Ah, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, c'est Tam Tam Canada en direct de Montréal, 11h15, heure de Montréal, une heure beaucoup plus avancée si vous trouvez en Europe, 5 heures au moins d'avance sur nous, et puis ailleurs, bien, ça déboule 12 heures en Asie, dans certains pays. Bienvenue donc à Montréal, et autour de la table, nous avons Ismaël cette semaine et Alice Chantal. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Stéphane.
Alors, mes collègues de Radio-Canada International ont un désavantage aujourd'hui, un handicap, hein. C'est comme s'ils jouaient un petit peu dans certains sports. C'est pas qu'ils manquent de taille ou de... non, de force, c'est qu'ils manquent de connaissances, ils ne savent pas c'est quoi le sujet d'émission. Mais c'est normal, c'est la tradition, vous le savez. Et pour vous aider, vous aussi, à la maison, à découvrir le sujet de la semaine, on vous présente cette vidéo 5 images. Donc, 5 chances pour vous d'attraper la balle au vol.
On va essayer.
D'accord?
On est prêt.
D'accord. Alors, première image. Le service technique, lui aussi, me dit il est prêt. Non, 5, 4, 3, 2. Voici la première image qui s'en vient. Mais il faudra être précis dans la réponse. Hein? Mm-hmm. C'est relié au monde dans l'enfance, j'en suis sûr.
Congés parentaux.
La natalité.
C'est épuisant. Vous êtes épuisante.
Ah, c'est ça?
C'est congés parentaux?
Ben oui, d'un seul souffle, vous l'avez.
Bon,
première image, c'est quelque chose.
Il a suffi d'une image.
Ouais. Mais on le sait, Ismaël, c'est notre meilleur élève. De
je
loin,
sais,
de très loin.
Très dur.
Ne me faites pas rougir. Voilà.
En fait, voici, sur ce thème des congés parentaux, voici la question que l'on pose cette semaine. C'est la question qu'on amène au devant de l'émission. Le reste du Canada peut-il copier le modèle québécois de congé parental, congé parentaux, congé parental?
Parental, oui,
les deux sont possibles.
Oui,
il y a aussi congé de maternité, ce n'est pas la même chose qu'un congé.
Un congé parental.
Voilà. Il y a beaucoup de choses à découvrir par rapport à ça. Montrons pas tout de suite la question numéro 1. On va avoir une petite conversation ensemble. Est-ce que l'un d'entre vous est déjà bénéficié? Je pars à rire, vous n'avez pas encore d'enfant?
Non, bon, okay. Pas encore, donc
j'en ai
pas bénéficié.
J'en ai bénéficié, je crois. Au départ, j'ai eu quelques soucis de santé. Et puis, j'ai eu plus de temps que les autres mamans, normalement. Mais c'est des moments très, très agréables.
Et puis, très important, c'est des moments pivots. Il y a aussi des questions financières qui sont reliées à ça. Mm-hmm. Si vous devez revenir au travail rapidement, vous n'avez non seulement pas le temps de souffler physiquement, mentalement,
non,
psychologiquement, tout ça, là, c'est que vous avez des soucis d'argent, très souvent. Et il y a le Conseil, je pense, mondial du travail, il y a un nom un peu plus formel pour ça, c'est le OATI ou quelque chose comme ça.
L'Organisation internationale du travail.
Merci.
L'OIT.
Oui, l'OIT.
L'Organisation internationale du travail.
À trois, on a toujours la réponse.
Mais oui, c'est sûr.
Alors, on recommence. D'un minimum de semaines.
Oui.
Que pas tous les pays sont d'accord avec ça, parce que le régime de congé parental, congé de maternité, ça n'existe pas dans tous les pays.
Non, du tout.
D'accord. Y a même aux États-Unis, il y a des grosses choses qui sont absentes par rapport à ça. On aura peut-être l'occasion aujourd'hui d'en parler, mais on va surtout parler du régime québécois.
Apparemment, c'est un régime très, très généreux.
Et puis même, on en dit beaucoup de bien internationalement, on le compare au meilleur, mais on se demande est-ce qu'on devrait appliquer ce modèle-là au reste du pays. Le premier ministre du Canada en a souvent parlé depuis 5 ans depuis qu'il est au pouvoir, mais on attend encore un geste. D'accord, on va analyser ça ensemble.
D'accord.
On regarde la première question aujourd'hui. Donc, 3 jeux à l'émission, 100 boules totales à perdre. Pour le premier jeu, seulement 20 boules. Et c'est facile aujourd'hui, la première question. On va l'afficher pour le plaisir de tous et chacun. Vous voyez, il y a un petit compteur là en bas. Vous aurez seulement 60 secondes.
60 secondes.
Ou 100 secondes pour répondre. Voici la question. Les mères de 25 à 29 ans perdent quel pourcentage de leurs revenus au Canada durant les 5 années suivant la naissance d'un enfant, malgré toutes les protections qu'on leur accorde? Est-ce que c'est 4% de leurs revenus qui y passent? B, 14%. C, 24%. Ou SD, 34%. Top! Chrono! Voilà, c'est parti.
C'est sûr que 34%, c'est énorme. 24%.
Moi, 24%? 14%.
14%? Pourquoi vous êtes si modeste?
J'espère qu'elle ne perd pas plus que ça.
Oh, c'est gentil, votre part. C'est fin.
Alors, j'irai avec 24%.
Ben, au moins un d'entre vous, donc 50% d'entre vous, avait la bonne réponse.
Allons-y.
Alors, qui a la bonne réponse d'après vous?
Ismaël! C'est
beaucoup, 24%. Je me serais dit... quand même, c'est un gros trou dans les finances.
Énorme,
tout est possible. Soit dit en passant, j'aurais, comme dit tout à l'heure, espéré que ça ne soit pas plus que 4.
Bon, c'est très bien. On ne vous fait pas languir plus qu'il faut. Vous n'avez même pas eu besoin des 100 secondes ou des 60 secondes. Seulement en 30 secondes, vous avez réglé le cas. La bonne réponse, on l'affiche. On est capable maintenant techniquement d'afficher la bonne réponse. Ah, on ajoute 5 étoiles. Voilà. Tout simplement. 14%. Ça, c'est pour les femmes de 25 à 29 ans.
OK.
Mais
au-delà?
25 à 39 ans.
OK.
Si on mélange tous les... Non, c'est seulement
4%. 4%?
D'accord. Au Canada, ce que j'ai trouvé...
Mais pourquoi cette différence?
Je ne sais pas. C'est une bonne, très, très bonne question.
Ouais,
d'ailleurs, vous savez, Charles, on a une spécialiste qui est avec nous.
OK.
Qui s'appelle Madame Harvey. Valérie Harvey, qui est connue, si vous faites un peu de lecture, c'est une écrivaine qui est également sociologue.
Sociologue.
Voilà. Et voilà. Et puis, elle est chroniqueuse à l'occasion à Radio-Canada.
D'accord.
On va aller la voir sur Skype. Elle nous attend. Mm-hmm. Vous avez posé une excellente question.
Ben oui, bonjour. Justement, pourquoi cette disparité-là?
Oui. Ben oui.
Alors, c'est pour les femmes de 25 à 35, c'est quoi le...
Que 25 à 29 ans.
C'est,
je crois,
14%.
C'est 14% de perte. Et au-delà de 29 ans, c'est 4%. Pourquoi cette différence?
4%? Probablement parce qu'on s'organise davantage dans le couple. On est plus installé dans la carrière. C'est juste une hypothèse, mais on s'absente peut-être moins longtemps. Les femmes qui ont des enfants plus jeunes vont avoir tendance souvent à prendre une carrière, surtout au Canada. Le Québec est une exception, je dirais.
Bon. Alors, parce qu'on parle du Québec, vous savez, on est une station internationale, donc on ne peut pas que faire du nombril à l'émission. Il va falloir élargir à toute la bedaine, comme disent les Québécois. Donc, aller inclure le Canada et peut-être même tout le corps, s'il le fallait, le reste de la planète. Situer le régime québécois par rapport au reste du monde, parce qu'on en dit beaucoup de bien, mais ce n'est pas nécessairement le premier quand vient en tête ce qu'on a à offrir de meilleur aux femmes.
C'est vrai, les pays nordiques ont été des précurseurs dans les congés parentaux, vraiment. Donc, il y a eu la Suède qui a mis un très long congé, la Norvège aussi, la Finlande. L'Islande, un petit peu plus tardivement, est allée autour des années 2000, a commencé à investir là-dedans. Mais le Québec, étonnamment, même si on n'est pas un pays nordique puis qu'on n'a pas autant de taux d'imposition que dans le reste des Nordiques, on a des politiques familiales qui se rapprochent de ces politiques familiales nordiques-là. C'est-à-dire, ça prend deux choses pour que ça fonctionne bien. Pas seulement un congé parental efficace. Ça prend un réseau de garderies qui est sécuritaire, c'est-à-dire en lequel on va avoir confiance d'envoyer nos petits, parce que c'est très, très important, et aussi qui est vraiment abordable, qui va être pas cher, parce que sinon, on va préférer rester à la maison pour s'en occuper.
Oui. Madame Harvey, j'ai essayé, moi, hier et avant-hier, même ce matin, j'ai encore essayé de comparer les différents programmes internationaux à ceux qui existent ici. Il y a deux choses que j'ai compris. À part ça, j'ai rien compris, mais je sais que la durée, c'est important, la durée d'un programme, mais aussi la rémunération, le pourcentage par rapport au salaire qu'on va accepter de poursuivre votre rémunération. Dans certains pays, c'est 100%. Au Québec, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais ça aussi, c'est un facteur important, la rémunération, dans l'appréciation d'un programme. Comment ça se passe présentement pour nous?
Au Québec, on a quand même un bon remplacement du revenu. Le congé de paternité, qui est de 5 semaines dans le régime de base, là, le plus utilisé par les parents, va remplacer 70% du salaire de base du papa. Donc, par exemple, il y a un maximum, évidemment. Là, si vous gagnez davantage que le maximum, ça va être moins que ça. Mais c'est un bon remplacement parce qu'on dit, par exemple, que pour les pères, pour qu'ils utilisent le congé, il faut que ça remplace au moins 50% de leur salaire. Pour les mamans, la même chose, le 18 semaines qu'on donne à la mère va lui aussi être remplacé à 70% pendant ces 18 semaines-là. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les semaines parentales, qui sont 32 semaines. Et là aussi, on a un très bon remplacement. Pour les 7 premières semaines, on va remplacer 70%. Et puis, c'est-à-dire les 28 semaines, on va avoir un remplacement de 55%. Donc, quand même, un appauvrissement, là, il faut prévoir un petit peu d'économie. Je dirais, chez la plupart des couples que j'ai rencontrés, c'est ce qui se passe. Là, on va faire de l'économie.
Madame Harvey, on présente présentement les images d'une vidéo préparée par un bureau d'avocats au Québec. qui essaie d'expliquer aux gens combien vous pouvez recevoir en compensation, en durée. Ça dépend si c'est votre premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, ça devient très compliqué. Et en allant sur le site du gouvernement, je m'y suis perdu. Je dois vous avouer, si j'avais à déterminer aujourd'hui à quoi m'attendre, parce que j'attends un enfant bientôt, je serais inquiet de ne pas trouver une réponse facilement. Est-ce que vous, qui êtes une spécialiste, vous pouvez vous y retrouver ou vous avez noté le même souci, le même problème?
On est beaucoup. J'ai été maman aussi, hein, donc moi aussi, j'ai consulté les sites gouvernementaux. Donc, en tant que chercheur et en tant qu'utilisatrice, heureusement, le régime québécois d'assurance parentale est facilement... on peut téléphoner. Donc, on peut poser des questions précises si on ne trouve pas l'information sur le site Web, si c'est un peu mélangeant. Il y a aussi un tableau qui résume assez bien. Ce qui peut complexifier les choses, c'est qu'on peut faire un choix différent du régime de base. Donc là, on vient un petit peu complexifier les choses. Et ce que je regardais ici, la vidéo que vous montrez, là, on nous donne encore plus de détails si on est malade, si des choses comme ça. C'est pas tout à fait la réalité ici. Pour la plupart des parents, là, on n'espère pas l'être. Donc, ça, c'est des situations qui sont un petit peu à part. Puis, généralement, sur le site gouvernemental, on va les mettre de côté. Dans le cas des naissances multiples, pour l'instant, au Québec, il n'y a rien qui se passe du tout. Hein. Donc, vous avez le même congé parental que vous ayez un, deux ou trois enfants, ce qui est, je dirais, un problème de réalité parce que je pense que le travail est un peu différent. Surtout, c'est arrivé chez des amis. Souvent, ça va être des enfants qui vont être prématurés, donc ils vont être à l'hôpital bien longtemps avant d'arriver à la maison, mais là, votre congé parental est presque épuisé. Là. Donc, ça, c'est un problème que le gouvernement est au courant, là, donc on va essayer de s'y adresser bientôt. J'espère que ça va fonctionner. Mais ça reste que, il reste quelques petites choses à régler, et quand on a des questions, n'hésitez pas à téléphoner. Ils vont vraiment répondre aux questions précises qu'on peut avoir.
Ben, heureusement, on n'a pas besoin de téléphoner, vous êtes là. Alice, vous avez une question?
Oui, dans le fond, étant donné que le modèle québécois est très, très apprécié et très généreux, est-ce qu'on devrait s'attendre à ce que ce modèle-là soit facilement calqué ailleurs? Si oui, quels sont les ingrédients qui devraient être réunis dans les autres provinces, les conditions qui devraient être réunies pour que ce modèle-là soit facilement exportable?
Ben moi, je pense que ce serait effectivement une bonne idée de l'exporter. Mais en tant que sociologue, j'ai regardé d'autres pays où il y avait des modèles très généreux, comme au Japon, par exemple. Il est dans les plus généreux au monde, et pratiquement pas utilisé par les papas, puis par les mères, il est utilisé, mais avec toujours une hésitation aussi, parce qu'on risque de perdre son emploi. Donc, avant qu'on mette des belles conditions, puis un beau programme gouvernemental, il faut souvent qu'il y ait quelque chose de prêt dans la société en général. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un désir pour les parents. La mère, souvent, il est déjà présent, ce désir-là. Souvent, on va avoir des congés de maternité qui sont déjà là aussi. Mais il faut qu'il y ait un désir des deux parents d'en faire plus, de renoncer à une partie de son salaire, souvent c'est le cas, d'avoir du temps à la maison, de savoir que ça ne va pas nous nuire quand on va revenir sur le marché du travail, parce que ça, c'est un autre enjeu. Par exemple, vous avez parlé des États-Unis dans votre introduction. Aux États-Unis, reviens rapidement au travail, parce que sinon, tu vas être étiqueté comme une personne qui a trahi l'entreprise, qui sacrifie l'entreprise pour ta famille. Donc, après, sur la façon dont on va te faire travailler si on te reprend, il n'y aurait aucune protection par la suite d'un congé de maternité aux États-Unis. Ça cause des problèmes. Donc, on ne peut pas implanter un congé sans penser à ça, sans penser au fait du ressenti des parents. Comment c'est vu, par exemple, le congé de paternité? C'est pas nécessairement bien vu dans tous les pays du monde que le papa pousse la poussette, là.
Tout à fait. J'allais rebondir par rapport au congé de paternité, parce que c'est quelque chose qui est relativement nouveau dans certaines sociétés. Pourquoi est-il si important pour les pères de bénéficier de ces congés-là? Enfin, en tant que sociologue, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Bon, ça, c'est mon sujet préféré. Donc, je peux vous en parler longtemps. Pour les papas, c'est important parce qu'ils vont acquérir une confiance. Donc, premièrement, ils vont découvrir qu'eux aussi sont capables d'en prendre soin, qu'ils sont compétents. Donc, il n'y a rien de mieux que l'expérimentation pour s'en rendre compte. On s'est rendu compte aussi en faisant des appâts que non seulement ils vont se sentir plus compétents à cause qu'ils ont expérimenté la vie quotidienne avec bébé, mais sur une durée de 5 semaines au Québec, là, ce qui est relativement court, mais qui est immense si on regarde, si on compare avec les autres pays du monde, là, c'est assez rare d'avoir un aussi long congé à la naissance de l'enfant, excepté dans les pays nordiques, j'ai pas vu d'autres exemples. On s'est rendu compte que, dans mon étude que j'ai faite, les papas, ça va changer complètement leur vision de ce que c'est prendre soin de bébé. J'en ai un des pères qui m'a illustré ça de la façon la plus extraordinaire. Il m'a dit, quand tu rentres à la maison le soir, là, parce que lui, il est retourné au travail, bien sûr, tu rentres à la maison, puis ta conjointe est sur le divan en pyjama, puis c'est la fin de journée, tu te dis « ouais ». Je pense qu'avant, je me serais dit, elle a pris ça mollo aujourd'hui, hein? C'était relax sa journée, elle n'a même pas eu besoin de s'habiller. Alors que quand tu as expérimenté la vie avec un bébé, tu te dis... Donc, pour lui, c'est fou, en fait, c'est un renversement de la situation. Donc, son empathie a complètement changé parce qu'il l'a expérimenté 5 semaines. Donc ça, c'est bon pour le papa. On sait aussi que dans le cerveau du père, on commence à faire des études neurobiologiques. Là, on scanne les pères sur une table.
On va dans le cerveau des papas. Oh là,
oui. Ben oui, c'est important tout ça. Oui.
C'est tout nouveau, en fait, ce champ-là. Donc, on commence à se rendre compte qu'à l'usage, les papas vont développer des liens dans les cerveaux pour reconnaître le son de leur bébé. Donc, ils sont aussi équipés pour le faire. Tu sais, le corps du père, biologiquement parlant, est tout fait pour s'occuper d'un enfant. Et ce sont des choses qui ont besoin de l'usage, donc qui ont besoin d'apparaître en prenant soin du bébé. Mais non seulement les choses sont bonnes pour le papa, mais sont bonnes pour les enfants aussi.
Pour les enfants, c'est ce que j'allais dire, oui. Mm-hmm.
Mais oui, ça, c'est important, on ne peut pas négliger ça. Donc, on sait que les bébés qui ont eu un papa impliqué quand ils étaient jeunes vont avoir une tendance à réussir mieux à l'école, à avoir moins de problèmes de comportement, et pour les filles, avoir une meilleure estime d'elles-mêmes. Donc, c'est important aussi. Et ben moi, je parlerai de la mère, là. Donc, avoir un père impliqué, ben moi, en tant que maman, je l'ai expérimenté, là, d'avoir un papa très présent pour les enfants. Puis ça te soulage la pression, la charge mentale qu'on appelle en sociologie. C'est-à-dire, tu as confiance quand tu pars que l'enfant est avec la meilleure personne. Hein? Toi ou le papa.
Ou le papa, oui.
Capable. Donc, j'ai développé une confiance envers mon conjoint qui me sert quand je pars faire une conférence à quelque part ou quand les enfants, c'est pas moi qui est là le soir, ce qui arrive aussi. Donc, ça, c'est très bien aussi pour la pression qu'on a sur les épaules en tant que maman.
Ouais. La charge mentale et même la charge de travail, le travail qu'on a à faire.
D'ailleurs, au Québec, il y a une étude sur ce sujet-là précisément pour savoir si le congé avait changé la façon dont on séparait les tâches. On a remarqué une chose importante. Après l'implantation du RQAP, le congé qui dure un an en tout, là, qui peut être entre les pères et les mères, la charge que les pères font dans les tâches domestiques, là, ça n'a pas vraiment changé. Donc, ils ne s'impliquent pas davantage qu'avant pour le linge ou la vaisselle. Sauf que le soin aux enfants est pratiquement divisé également au Québec seulement. Depuis ce temps-là, il y a eu une montée depuis le congé parental prolongé qui a permis que les pères prennent presque autant de temps à prendre soin de leurs enfants que les mères. Et moi, en tant que sociologue, je dirais, pour avoir rencontré plusieurs pères pour mes études, que ça a aussi rapport aux liens qu'ils développent avec leur bébé pendant ce congé-là, puis aux liens qu'ils veulent garder par la suite. Donc, c'est quoi un bébé? Ils savent la charge que ça représente un enfant. Puis, ils veulent continuer à avoir un lien avec leur bébé, même après avoir retourné au travail. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Il faudrait maintenant en faire un petit peu plus pour les tâches domestiques, mais on en reparlera.
Ismaël, ancien bébé et futur père, vous avez une question?
Ben, je voulais savoir, parce que est-ce que les congés maternité et paternité, ça coûte cher pour la société? Parce que vous disiez tantôt que, bon, il y a les pays nordiques qui ont mis ça en place très tôt, avec des taux d'imposition plus importants qu'au Québec. Bon, au Québec, on en a installé un avec des taux d'imposition moins importants que dans les pays nordiques. Est-ce que ça coûte cher ou c'est finalement un choix politique plus qu'un choix économique?
Ben évidemment, c'est plus cher que si on ne fait rien, mais il faut mettre dans la balance les conséquences de rien faire. C'est-à-dire que là, lorsque les pas implantés, ce que les gouvernements tentent de faire en mettant un congé, un long d'aile politique familiale, là, c'est pas nécessairement faire plaisir aux citoyens ou soulager leur charge mentale ou contribuer à l'égalité. Ça, c'est des beaux discours. Mais souvent, ce qu'ils veulent faire en mettant ça en place, c'est un peu booster la natalité. Parce qu'on se rend compte que la natalité dans les pays occidentaux est diminue. En fait, partout dans le monde, elle diminue. Mais dans les pays occidentaux, elle est passée sous la barre du taux de remplacement de la population depuis des décennies. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas tout combler par l'immigration. Ça prendrait vraiment, vraiment beaucoup de monde. Donc, les gouvernements vont se dire, OK, donc ça prend plus d'enfants dans la population qu'on a chez nous. Comment on va faire ça? Bien, les parents disent qu'ils sont surchargés, ils disent qu'ils n'y arrivent pas. Puis là, bien, ceux qui n'en ont pas se disent « j'y arriverai jamais ». Donc, j'en aurai pas. On observe ce phénomène-là qu'on appelle « société de célibataires ultramobiles » dans les pays asiatiques comme la Corée du Sud, Taïwan ou encore le Japon, où là, on va avoir des gens qui vont faire soit le choix de travailler et de ne pas avoir d'enfants parce que c'est trop compliqué, soit qu'ils vont décider d'en avoir parce qu'ils ont trouvé un conjoint, ils veulent avoir des enfants, et là, ils vont en avoir deux ou trois. Donc, leur taux de natalité, là, il est vraiment génial. Il y a tellement pas de monde qui font ce choix-là qu'on se ramasse finalement, quand on fait la moyenne du taux de natalité, avec une société qui a un taux de natalité qui continue de descendre et qui n'arrive plus à se remplacer. Et là, le problème d'une natalité qui est très basse, à long terme, c'est vraiment compliqué pour la main-d'œuvre.
La main-d'œuvre.
Évidemment. Mais oui, parce qu'on a personne qui travaille au Japon. Là, c'est le gros enjeu en ce moment.
C'est ça.
Et on a beaucoup de problèmes avec les gens qui prennent leur retraite, mais où il n'y a pas assez de gens pour payer si on veut cette retraite-là.
Ouais. Ben, le problème de natalité est important partout. Ici même en studio, il y a une quatrième personne qui manque. Là. c'est le problème. Mais au Canada aussi, là, le Québec, il est là, il donne l'exemple. Enfin, il donne l'exemple. Il y a un exemple extraordinaire à partager ici. Le gouvernement, c'est-à-dire le premier ministre Justin Trudeau, avant qu'il soit élu, a parlé d'un programme national.
Un programme pan-canadien.
Oui, madame. Mais on attend. On ne sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez des échos, vous?
Moi, je le suis, là, mais je dirais que probablement pour le ministre, bon, le premier ministre, c'est peut-être une priorité qui est passée sous le tapis. J'ai l'impression aussi que quand on vient parler des politiques familiales, on a encore un peu de sensibilité qui est reliée à la définition des rôles dans la famille. Hein? Surtout du côté des mamans, on se dit... Même s'il y a des bonnes garderies, même si elles sont sécuritaires, même si elles sont peu dispendieuses, etc. Je le sais, je l'ai vécu, hein. On le vit tout, je pense. Oui, mais c'est-tu normal que j'aille porter mon enfant à la garderie? Donc, quand tu as un gouvernement dans un pays qui te laisse supposément libre de tes actions, on est quand même dans un pays qui est proche des États-Unis, là, donc nos choix individuels sont très valorisés, sont très importants, te dit, bon, ben, je vais te mettre des belles politiques familiales où tu vas pouvoir envoyer ton enfant à la garderie et continuer de travailler. Ben, dans certaines provinces, ça peut moins passer, chez certains groupes de gens aussi, comme quelque chose où on essaie de t'influencer à continuer de travailler, à avoir une vie capitaliste, à être moins familiale, à avoir un désengagement de la mère, etc. Donc, ça peut être plus difficile, peut-être, pour certaines communautés, je pense. Mais, moi, à mon avis, ça va commencer à changer parce que les garderies sont très, 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 très chères dans le reste du Canada. Ça, on entend souvent des autour de ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de mères qui souhaitent continuer à travailler, hein, celles qui abandonnent parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est pas nécessairement un choix, ça vient plomber ton budget là, d'envoyer ton enfant à la garderie. Donc, je pense qu'on va y arriver parce que c'est aussi un enjeu d'égalité. Au bout du compte, pour celles qui voudraient continuer à être médecin, celles qui voudraient continuer à être professeurs de musique. Donc, pourquoi elles ont à sacrifier leur carrière, le temps d'avoir des enfants puis qu'ils se rendent à l'école? Donc, ça devient un peu injuste donc, de toujours se poser la question, OK, est-ce que c'est toi ou moi, en tant que papa ou maman, qui va sacrifier la carrière? Souvent, c'est la mère hein, qui va prendre cette décision-là. Donc, moi, je me dis, ça va devenir un enjeu... peut-être dans les prochaines années.
Dans les prochaines années.
J'espère.
Sans revenir totalement à ma première question, justement, si vous aviez des recommandations à formuler pour la mise en place d'un programme pan-canadien sur ce plan-là, que diriez-vous, par exemple?
J'irais pour le côté pan-canadien, je trouve que ce qui serait très important, ce serait d'abord d'implanter des garderies, donc d'avoir vraiment des subventions, un système de garderies qui va permettre d'avoir confiance, autant on a confiance à l'école. Quand on envoie notre enfant à l'école, théoriquement, on se dit, bon, ben, il est pris en charge efficacement, sa sécurité est assurée, on suit ses étapes de développement. Je ne veux pas dire qu'il faut leur donner de l'éducation à la garderie nécessairement, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on suit les étapes émotionnelles d'un enfant à 1 an, 2 ans. Donc, on connaît ces étapes-là maintenant et on les suit puis on s'ajuste. Donc, quand on a un réseau comme ça, qui ne coûte pas cher, donc qui vont être financés, aidés par le gouvernement, appuyés vraiment et encadrés par le gouvernement aussi avec des inspections là, qui sont assez régulières et un bon suivi. Je pense que ils vont commencer à envoyer davantage d'enfants pour pouvoir continuer à travailler. Puis à ce moment-là, comme on l'a fait au Québec, quand tu implantes un régime beaucoup plus généreux, parce que ça existe au Canada, là, le régime d'assurance. Bien, c'est sur l'assurance-emploi qu'on appelle, c'est un autre programme, mais c'est présent, particulièrement pour la mère. Donc, je pense qu'à ce moment-là, tu pourrais mettre des choix différents, peut-être un régime plus généreux qui serait davantage utilisé par les parents parce qu'ils verraient l'utilité de l'utiliser. Ils auraient confiance aussi qu'il y a une autre alternative. Donc, il faut que les garderies soient possibles à temps partiel aussi. C'est pas tout le monde qui veut abandonner, qui veut... le choix n'est pas seulement dois-je abandonner ma carrière ou complètement m'occuper des enfants à la maison. Il faut qu'il y ait du temps partiel possible aussi pour ceux qui ont la possibilité de faire un emploi à temps partiel puis d'avoir les enfants 2 jours à la maison avec eux. Donc, il faut que ça soit variable.
À ce sujet-là, je pense que c'est en France. J'ai lu ça il y a quelques jours. La loi oblige les employeurs à réduire la journée de travail à 6 heures. C'est une option. Qui est offerte aux mères 6 heures seulement de travail. Je sais qu'en France, ils travaillent seulement 6 heures.
Mais ça devrait être offert aux pères aussi. Hein? Oui. Parce que, il ne faudrait pas le genrer dans le sens où un papa une mère qui travaille plus à l'extérieur pourrait demander des qu'on appelle des aménagements de temps de travail. Moi, j'ai interviewé beaucoup de papas dans les jeux vidéo. Et dans les jeux vidéo, ils ont souvent accès à ce type de journée flexible. Donc, tu rentres entre telle heure, mais le résultat, t'es là ou pas. Ça, beaucoup de parents m'en ont parlé comme quelque chose qui voyait très positivement parce qu'eux faisaient le choix de rentrer très, très tôt. Hein. Au bébé, on le sait que souvent, ça fait pas des grasses matinées.
Non.
Donc, eux rentraient très, très tôt le matin et ensuite, ils partaient très tôt pour aller chercher l'enfant à la garderie. La maman se chargeait, si on veut, d'aller le porter le matin et papa, ça, c'est un aménagement qui peut fonctionner très bien. Donc, il faut donner différents types d'aménagements parce qu'on a différents types de couples, on a différents types d'aménagements. Donc, il faut que ce soit possible pour les parents de s'organiser en fonction de ce qu'ils ont comme travail puis désir aussi.
Puis, ce que je trouve intéressant, c'est que les choses évoluent rapidement. Si on suit les articles uniquement publiés par Radio-Canada ou Radio-RCI depuis 5 ans, on voit le programme bonifié. Encore récemment, je pense au mois de janvier, on a inclus une nouvelle catégorie de parents pouvant bénéficier des mêmes avantages que les parents biologiques, par exemple. Donc, c'est pas quelque chose qui est statique, là. Ça évolue rapidement. Il semble que les messages se rendent au gouvernement.
Oui, bien, parce que ça fonctionne bien. C'était très drôle, pendant mon étude de doctorat, j'interviewais des papas. Et des fois, les gouvernements essayent, ils lancent des petites rumeurs qui vont modifier un programme, tout ça. Et j'étais en train de faire mes entrevues quand est sortie la nouvelle. On allait couper le 5 semaines protégé des papas, puis on allait l'inclure dans les semaines parentales. De toute façon, ça ne changeait rien. Moi, les papas que j'interviewais pour eux, et ça revenait sur le tapis, même si je n'avais pas de questions à propos de ça. Donc là, on voyait qu'il y avait une grande réaction dans la population à propos d'une possibilité de changement au congé de paternité. Puis je le comprenais bien parce que pendant les entrevues, les papas me disaient « Non, mais s'ils ne me donnent pas 5 semaines, on ne se sentira pas autorisé à prendre 5 semaines. » C'est-à-dire que la vision qu'on a est encore traditionnel. Tu sais, on voit que c'est la maman. Donc, ce qu'on appelle parental, la plupart des gens, c'est le congé de maternité qui s'étend. Hein? Bon, oui, voilà. Donc, les pères disaient, non, je n'ai pas demandé 5 semaines du congé parental, c'est son congé. Donc, ils ne se sentaient pas légitimes d'aller chercher ce congé-là. Alors, ce qu'on a changé... Oui, on lui volait, exactement. Alors, ce qu'ils m'ont dit, c'est... Moi, quand j'ai 5 semaines marquées, c'est à mon nom. Si je ne le prends pas, c'est perdu. C'est à moi. Donc, c'est mon congé. Donc, je vais vraiment l'utiliser. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc, le gouvernement ne l'a pas fait. Hein. Il n'a rien changé parce que la réaction a été vive, je crois. Et ils l'ont senti. Donc, je pense qu'il y a un grand attachement au congé au Québec. Et c'est pour ça qu'on le bonifie. C'est pour ça qu'on l'ajuste. Puis ça a servi aussi la natalité. Ça a légèrement augmenté la natalité au Québec. Là.
Ben, en tout cas, moi, j'ai bien compris une chose, Mme Harvey. Pour que ça fonctionne, ça prend un bon mari. Sinon, ça sert à rien. Hein?
Et puis, j'allais poser une dernière question. Je ne sais pas, pendant votre doctorat, est-ce que vous êtes allé voir si les pères utilisent réellement le temps qui leur est accordé à s'occuper véritablement de l'enfant?
Ben, ça, c'est une question hyper pertinente. J'ai eu 2 types de pères pendant mon congé.
Voilà.
J'ai les papas qui se sont appelés eux-mêmes, hein, c'est pas moi qui leur ai donné le terme, les papas inutiles, c'est-à-dire que pendant le congé, on était les helpers, comme ils disaient, donc c'est-à-dire que bon, ben, ils faisaient à manger pour la maman, ils s'occupaient du plus grand s'il y en avait un autre, mais sinon, il n'y avait pas grand-chose à faire parce que la maman s'occupait du bébé, il y avait l'allaitement, il n'y avait rien à faire là-dessus, elle faisait tout avec le bébé, donc c'était pas le moment où ils considéraient qu'il avait été utile pour développer des liens avec l'enfant. Donc ça dépend beaucoup de la place que la mère va laisser aussi, hein, donc et que le père va se sentir ou pas légitime d'aller la chercher. Parce que j'ai eu toute une autre série de papas que j'ai appelé les papas partenaires, où là, l'allaitement, c'était pas un problème. Au contraire, tu sais, eux autres, elles s'occupaient d'aller changer la couche pendant ce temps-là. Ils vivaient toutes les craintes par rapport à toutes sortes de petits problèmes qui arrivent constamment pendant le développement d'un bébé en bas âge. Donc, c'était vraiment des parents qui étaient partenaires dans leurs inquiétudes, partenaires dans leur joie, dans leur partage. Donc, ils vivaient ça très, très différemment, puis qui se sentaient infiniment utiles, puis qui trouvaient que 5 semaines, c'était vraiment pas assez long. Donc, il y a 2 types de pères. Je pense qu'il y a quelque chose à voir, comme je le dirais, avec la maman. Et c'est normal, parce que d'une certaine manière, nous, en tant que mère, pour être une bonne mère, il faut être capable de tout faire. Il faut avoir les réponses à toutes les questions. N'est-ce pas?
Il faut être des super mamans.
On peut être des super women, ça inclut super maman. Donc, je me dis, même moi, en tant que maman, je l'ai eu, ce tic-là, ce désir-là d'avoir les réponses à toutes les questions. Puis, c'est pas facile d'en décrocher. On se sent... En fait, j'ai un professeur en Islande qui me disait toujours, tu sais, quand une femme de ma génération se compare avec sa mère ou avec sa grand-mère, on est toujours moins bonne puis on est toujours moins impliquée qu'avant, n'est-ce pas, avec la famille. Et quand un père se compare avec son père ou son grand-père...
Il est meilleur, il est mieux. Oui.
Il est pas mal gagnant, là.
C'est vrai. Donc,
ben
c'est vrai.
C'est normal.
La perception est différente.
Voilà,
c'est ça.
Ben, Madame Harvey, ce fut un plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous via Skype. Merci infiniment d'avoir participé aujourd'hui.
Merci.
Intéressant.
Oui.
Bye-bye. C'était donc l'écrivaine et chercheuse sociologue Valérie Harvey. Fantastique de
vous avoir le parler.
Puis on a vraiment essayé de trouver les spécialistes. Celle qui pouvait répondre à toutes les questions, et c'est elle. Je vous dis, c'est rare. Très rare. On y va avec notre... je vais y aller avec la deuxième question à l'émission.
Oui.
Bon.
Qui a perdu 20 boules à la
moi,
femme?
Moi,
vous.
Moi.
Là, il y a 30
c'est
boules à perdre.
C'est l'occasion pour faire
Ben oui, je l'espère.
Deuxième jeu à l'émission.
D'accord.
Encore 60 secondes seulement pour répondre, ou 100 secondes au choix. Là, c'est affiché 100, là, moi je ne comprends pas. Alors, on regarde ça ensemble, la question, tout le monde. Voilà. Lequel de ces pays possède, selon vous, d'après vous, le congé de paternité le plus généreux, soit de 60 à 480 jours? Est-ce la Norvège? A. Est-ce B, la Suède? Est-ce C, la Finlande, avec 2 petits points? Ou est-ce D, le Danemark? Quelle est la bonne réponse? Top chrono.
Moi, c'est la Finlande.
La Finlande. Pourquoi la Finlande?
Mais parce qu'elle en a parlé tantôt.
Oui, ben elle fait partie d'abord des pays, nordiques dont on a mentionné, mais c'est aussi un pays qui... je pense que tout le gouvernement finlandais sont des femmes en ce moment.
OK.
Parce que alors, raison de plus pour qu'elle développe montre, des programmes généreux.
Oui, je pense qu'il y a quelque chose...
Mais vous savez, votre premier argument, c'est un pays nordique. Je pense que la plupart de ces pays-là sont nordiques.
Sans nordique, le Danemark aussi.
Oui, c'est la Scandinavie. Oui.
Mais généralement, dans ces pays-là, tout est agréable. Hein.
C'est vrai?
Ben oui.
À part le climat, peut-être.
Quand on sort au Danemark, en Norvège...
Alors, Finlande pour notre ami CC, pour Ismaël. Il vous reste 18 secondes. Réponse.
Bon, ben... Peut-être C aussi, mais j'irai avec A.
Vous iriez avec A, donc vous divisez encore le vote.
Je divise. J'irai avec A.
Alors, je peux vous dire que 100%
Ismaël.
De mauvaise réponse. 100% de mauvaise réponse, vous perdez.
C'est la Suède.
C'est la Suède, oui. Mais ça, c'est au niveau de la durée. Okay. Maintenant, au niveau du remboursement des revenus par rapport au salaire que vous faites, c'est la Norvège. Donc, on va dire en Suède, grosse durée pour vous, là. 60,
mais peu d'argent.
70%, 80%, d'accord. Mais pour la Finlande, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mmh. D'accord, je n'ai pas le chiffre exact, mais j'oserais dire que c'est 100%, mais je devrais aller revérifier.
Bon. D'accord? Intéressant.
Ouais. Vous voyez, c'est toujours deux critères, au moins deux, puis c'est pas trois ou quatre, hein, quand on évalue les pommes et les oranges.
Tout à fait.
Tous les deux sont ronds.
La troisième question.
La troisième question. Je voulais vous montrer ça. C'est pour en savoir plus. Notre vidéo numéro 6624-2000.
Okay.
Et puis, on va sur le site web de RCI.
D'accord.
Et ça sera affiché d'ici 15 minutes. Là, c'est un preview.
Ah,
hein. Il n'y a que vous qui voyez ça. Nos internautes.
Les autres ne voient pas.
C'est nos articles sur la même question depuis quelques années. Vous allez pouvoir voir que ça évolue rapidement.
Mm-hmm.
On en a seulement 5 ou 6 cette semaine. Mm-hmm. Mais j'en avais beaucoup plus que ça. Mais on remonte la liste. On va aller voir. Quand une maman a un enfant, elle fait moins de revenus. Mais regardez bien la manchette. Un père, les revenus du père vont augmenter. Là, notre image RCI est un peu couverte.
Fait perdre à la mère, mais fait augmenter au père.
Le père va augmenter ses revenus.
C'est
dans
paradoxal.
Les années, voilà. Il paraît que les employeurs ont plus de, moins respect par rapport au travailleur, à l'homme qui est au travail, ont plus de considération pour les promotions.
D'accord.
Okay. D'accord. Donc, il y a un appui sociétal ici indéniable.
En effet.
Et rien pour le jeune loup fou. Voilà.
Donc, il y a un problème d'équité salariale.
Oui, envers les hommes seuls, oui. C'est ça. Un autre problème à régler.
C'est ça.
Évidemment, je suis allé un peu loin dans ma vidéo. J'ai capturé de la publicité. Je ne suis pas autorisé à faire ça.
Non, du tout.
Je vais vous montrer que d'un article à l'autre, vous pouvez aller d'un hyperlien à l'autre. Mm-hmm. On s'amuse à faire ça.
Comme ça, voyager dans le dossier.
Oui.
D'accord.
Puis on a fini par aboutir à Radio-Canada. Je ne sais pas comment on fait, mais on a fait ça.
Le grand écart.
Voilà. Vous vouliez la troisième question?
Oui, on a...
Vous avez 50 boules de perdu sur 100.
OK.
Vous en avez seulement... 30 de perdu, Ismaël.
Donc, il avait gagné 20.
Vous n'en aviez pas perdu.
Perdu.
Ah oui,
vous avez conservé vos boules. Donc, dans le fond, il est rendu à 70%.
On est plus dans le nombre de congés payés.
Ouais, c'est à peu près ça.
70% et 50%.
Vous n'êtes pas en Finlande, là, quand même.
Non, c'est ça.
Troisième question. On joue tous ensemble. Encore une fois, on n'aura que 100 secondes ou 60 secondes pour répondre. En quelle année, selon vous, le Canada a-t-il offert pour la première fois aux nouvelles mères un congé de maternité rémunéré? En quelle année? Ça date de quelle année, ça? Et c'était le Canada, avant le Québec, qui a fait cette offre. D'accord?
Le Canada national. Avant le Québec. Bon, la Révolution tranquille, c'était 60-61, par là, 1951. Peut-être le Canada avant le Québec.
1971.
1971?
Oui. 1951 pour
Je
le Canada.
Je sais que c'est tard, mais...
Ça me semble très tard, moi.
1951.
Pourquoi 1951?
Parce que c'était bien avant le Québec. Je sais que la Révolution tranquille a commencé ici dans les années 60.
Oui.
Et donc, avec la Révolution tranquille, il y a eu pas mal de programmes de chamboulement dans la société, y compris ce programme-là. Donc, ça, c'est mon explication.
Ah, je vous comprends. Donc, le Canada a été réveillé avant le Québec.
C'est ça.
Et si c'était le cas... Ça a dû se produire avant la Révolution.
Avant la Révolution tranquille au Québec.
D'accord.
C'est mon argumentation.
Oui. J'aime beaucoup.
Ça semble tenir la route, mais
1950A pour Alice. Okay. Et puis pour vous, il vous reste 14 secondes.
Décidez-vous. En 1971. Je garde...
Bien avant le Québec.
Je garde ma date tardive.
Ah, oh, c'est terrible. C'est désolant. C'est désolant que vous ayez gardé cette date. Ah, puisque, désolé. Regardez la bonne réponse. Vous avez conservé vos boules.
Oh non!
Je garde jusqu'au bout. Oui, 71, c'est le mouvement. Je sais pas.
Et le Québec, c'est en 77. Vous avez perdu toutes vos boules.
Mais non. Je suis triste. Mais c'est pas grave.
Ça se produit jamais.
On va les récupérer la semaine prochaine.
Une vraie faiblesse.
Mais dans la vraie vie, je gagne.
Oui,
c'est ça qui compte. C'est ça qui compte.
Ici, c'est un jeu.
Oui, c'est virtuel, là.
Mais oui,
c'est une réalité virtuelle.
On ne sert pas vraiment.
Alternative. Écoutez, on est prêt pour l'image de la semaine. Comment ça fonctionne, l'image de la semaine? Il n'y a rien à perdre ni à gagner, là.
Non, mais à deviner.
Il faut juste deviner quelque chose.
Très bien. Voilà. Et je réponds par oui ou par non à vos questions.
Tout à fait.
Très intelligente. Voici.
Espérons.
Oui. On y va.
L'image de la semaine.
Quelle est l'image de la semaine, selon
vous? Un indice.
Non, pas d'indice. Oui ou non? Pas d'indice, c'est non.
Est-ce que ça a à voir avec le coronavirus?
Le coronavirus, non.
Le Diamond Princess, non.
Le Diamond Princess, oh mon Dieu, ça aurait été une bonne réponse avec les Canadiens qui s'y trouvent.
Les manifestations autochtones.
Pourquoi ce serait l'image de la semaine, selon vous?
Parce que
c'est ce qui se passe
en ce moment.
Vous êtes un champion cette semaine. Regardez, c'est l'image de la semaine, effectivement.
Oh,
et vous êtes capable de nommer les faits?
Oui.
De livrer les faits. On vous écoute sur ces images, l'image de la semaine que voici.
La une communauté autochtone de la Colombie-Britannique, les aînés, ou je pense que c'est les chefs spirituels de la communauté autochtone, qui sont contre le traversée du pipeline à travers leur territoire ancestral.
D'accord. Mm-hmm.
Les Wistesten, les Wetsuweten.
Voilà, c'est ça.
Voilà, excusez.
C'est bien dit.
La communauté.
Ils ont reçu l'appui de beaucoup d'autres communautés.
Voilà, donc il y a eu un engrangement. Les autres communautés autochtones du Canada, par solidarité, bloquent aussi les voies ferroviaires du pays.
Bloquant donc le trafic de passagers.
Voilà.
C'est fini, c'est fermé.
Tout à fait.
Puis les marchandises s'est interrompu en plusieurs endroits, notamment dans l'Est.
Tout à fait.
Et aussi vers les États-Unis, on craint maintenant qu'il n'y ait pas possibilité d'envoyer les produits du Canada par voie ferroviaire, le principe.
C'est ça, le transport des marchandises.
Ouais. Donc c'est un blocage économique à l'échelle du pays.
Alors c'est pire qu'une crise.
Et puis il y a aussi un problème par rapport au chauffage. J'ai entendu dire ce matin que ceux qui se chauffent au propane ne sont pas ravitaillés.
Oui, tout à fait.
Donc il y a un problème de ravitaillement.
Oui, oui.
Et puis voilà, les voyageurs aussi se trouvent cloués sur le plancher.
Voilà.
Obligés de prendre l'avion ou l'autobus.
Ou l'autobus, voilà.
Alors tout le monde est affecté par ça, enfin tous ceux qui doivent se. C'est prendre déplacé. Des décisions, c'est ça. Alors, c'est... Puis, écoutez, il y a plusieurs bandes amérindiennes qui ont dit oui au projet de gazoduc dans le Nord, mais ces bandes-là ont d'abord signé, il y a des années, des générations de cela, la loi des Indiens, avec le gouvernement blanc à l'époque, et les chefs autochtones ancestraux, c'est comme ça qu'on les appelle, eux disent, nous, on n'a jamais signé cette loi-là.
Ouais.
On ne reconnaît rien à ça. Les autres ont pu signer, mais nous, ça ne nous concerne pas. Et nous, on a la gestion de toute la responsabilité de tout le territoire.
Tout à fait.
Eux, les représentants des bandes, c'est simplement leur petit territoire qui peuvent...
Ils représentent la réserve.
C'est voilà, ça. Exactement.
Mais c'est quoi le projet spécifiquement? C'est le projet Gros Gaz Link, quelque chose comme ça?
Oui. Quelque chose comme Gaz ça, Link. Oui. Gaz Link, oui. Okay. C'est pas tellement
Gros
long.
Gros Gaz Link.
C'est la longueur d'une... La Colombie-Britannique, enfin la largeur de la Colombie-Britannique.
Mais ça traverse le territoire ancestral.
C'est ça.
Exactement. Et ce n'est pas le premier cas de souci qu'on a...
Avec les communautés autochtones.
Ou de contestation environnementale.
À ces traités ancestraux
qui
leur reconnaissent certains droits sur leur territoire.
Voilà, c'est une histoire à suivre, ça c'est sûr qu'on va en reparler la semaine prochaine. Peut-être même à cette émission, il faudra voir. Hein. Peut-être qu'on aura quelqu'un.
En fonction des développements qu'on aura. Parce que jusque-là, on n'a pas de réaction de la part du Premier ministre du Canada. Ce matin, je l'entendais dire qu'il faut s'en tenir au respect des lois, quelque chose comme ça.
Et que disent les lois?
Ben, je ne sais pas trop.
Le droit à manifester existe,
mais
le droit à respecter aussi les règles.
Et puis, il faut respecter les injonctions.
Tout à fait.
Il y a des injonctions qui sont en vigueur et ne sont pas encore respectées. En Ontario, apparemment, ailleurs, ils ont réglé le problème.
D'accord.
Les policiers sont intervenus.
Dans tous les cas, quand on parle de droit, c'est toutes sortes de droits.
Ben,
Parce que ces peuples-là aussi ont certains droits sur leur territoire.
Absolument.
Et des droits qui sont reconnus par les Nations Unies de longue date.
Tout à fait.
Donc, il faut tenir compte de tout ça.
Tout à fait.
Donc, à développer à RCI, Hein? Si j'étais votre patron, oui. Je vous dirais développer.
Oui, 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 à suivre.
Oui. Ben oui, non, mais c'est important. C'est un dossier qu'on va suivre.
Ça fait le tour du monde, cette nouvelle.
Ben oui, oui, c'est
ça
majeur,
dont on parle en
majeur,
ce moment. À part le coronavirus, évidemment. Qui poursuit sa course.
Sa course.
Ouais.
C'est
et
ravage.
Puis, voilà. Mais écoutez, merci beaucoup d'être venu cette semaine.
Merci.
Avec
plaisir,
la montagne de travail que vous avez. Vous avez quand même monté vers la petite colline de l'émission. C'est très bien.
Merci pour l'invitation.
À la semaine prochaine.
Au revoir.